Aujourd'hui, la grande table escalade les piles, monte sur les étagères et plonge dans l'océan de papier de la rentrée littéraire. 560 bébés romans qui arrivent dans les bras de lecteurs, impatients de les tenir, de les sentir et peut-être de les aimer. Avant de les retrouver, ils passent de bras en bras pour être examinés et soupesés comme il se doit. Les voilà désormais au centre des discussions de la grande table des critiques. Dans la deuxième partie de cette émission, nous quitterons les étagères le plus gracieusement possible pour rejoindre Blancali, qui signe un film dansé d'un genre inédit, Electro-Mathématrix. Il est l'heure de passer à table. En guise d'entrée, voici l'éphéméride du jour, évocation d'un autre 23 août, le 23 août 1928. C'était la naissance de la poétesse résistante et journaliste Madeleine Riffaut, qui lisait ses poèmes à Paul Éluard.
J'avais apporté dans la poche de ma veste des poèmes, notamment écrits en prison. Et... évidemment, je dis à Paul timidement, j'ai écrit ces choses-là quand j'étais dans la prison. Il me dit, montre-moi ces choses-là. Et par la suite, il m'a confié, oh mon Dieu, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, quelle tuile, quel ennui. Voilà une pauvre fille qui va me montrer des poèmes qui sont évidemment mauvais. Et puis, nous, chez lui, se penche sur mes textes. Ah, son visage s'éclaire, il me dit... mais c'est bien, c'est très bien, ma petite. Décidément, tout le monde m'appelait ma petite. Voilà, nous sommes sauvés. Tu sais écrire le français, au moins.
Et c'est avec autant de bienveillance que nous allons nous pencher sur la rentrée littéraire 2016. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui autour de la table Elisabeth Philippe, bonjour.
Bonjour.
Responsable du service culture du magazine Vanity Fair, Christophe Onodibio, responsable des pages culture du Point, producteur à France Culture et animateur du Fil de la Nuit sur LCI, bonjour.
Bonjour.
Et Éric Loret, du Monde des Livres, qui nous fait la Raphaël Léris du moment. Et qui vient nous honorer aussi autour de la grande table. Bonjour. Éric Fotorino sera, lui, par téléphone. Il viendra nous parler du partenariat entre le 1 et, sur cette histoire de rentrée littéraire, la parole qui sera donnée aux libraires. Alors d'abord, avant de commencer à rentrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que ça a un sens de parler vraiment de tendance en littérature, Elisabeth Philippe?
Alors ça a un sens, oui, et cette année peut-être un peu moins, étrangement. Moi je trouve en tout cas personnellement que contrairement à certaines années, à des années précédentes, il n'y a pas vraiment de tendance forte qui se dégage cette année. Je me souviens il y a 3-4 ans, il y avait une tendance très forte de livres qui traitaient de l'insurrection et qui faisaient... qui était peut-être même annonciateur des mouvements qu'on a connus par la suite. Je pense notamment à Nuit debout. Il y avait les livres de Yannick Enel, notamment de Loïc Merle. Enfin, voilà, il y avait vraiment une tendance très très forte qui se dégageait, une tendance thématique. Je trouve que cette année, et je ne sais pas si mes confrères sont d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de thématiques très très fortes qui se dégagent. C'est beaucoup plus diffus, divers et ouvert.
Éric Loret, est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, c'est
une tendance en littérature.
Bon, alors c'est une rentrée qu'on dit ouverte, donc où rien ne se dégage vraiment. Il y a au moins une influence, en tout cas, de l'air du temps, du mauvais air du temps, le terrorisme en particulier, qui produit un certain nombre de fictions, soit racontant les effets que cela a pu avoir sur les vies privées après Charlie Hebdo, après le Bataclan, ou des ouvrages aussi d'auteurs français de culture maghrébine qui parlent de leur place justement en France aujourd'hui, de la difficulté qu'il y a à ça.
Une question après, de la double nationalité notamment qui est évoquée.
En particulier, voilà. Et pour les tendances, bon, oui, il y en a eu effectivement. Ça, je crois que c'est plutôt quand même aux universitaires de nous les donner. Je pense, on se rappelle tous l'autofiction, il y a 15-20 ans, théorisée par Marie Dariussec en particulier. Et puis Dominique Viard qui théorise depuis quelques temps ce qu'on appelle ailleurs l'exofiction, mais qu'il appelle les fictions biographiques, c'est-à-dire des romans qui se mettent dans la peau d'Arthur Rimbaud, qui racontent les derniers jours de Mandelstam, etc. etc. Donc ça, cette tendance, elle demeure, mais je crois que c'est avec un certain recul qu'on verra qu'en effet, il y a eu des mouvements littéraires ou des préoccupations dont les sociologues pourraient déduire quoi que ce soit. Mais enfin là, avec le nez dedans, c'est assez difficile de
on
dire...
On va s'arrêter sur ces
alors,
points abordés.
Christophe
Onodibio,
tendance, non tendance.
Oui, puis on a l'impression quand même, à tendance, j'aime pas, ça me fait penser un peu à la
mode,
vous voyez, les cahiers
bleu.
De tendance, voilà. J'espère que la littérature échappe quand même à ça. C'est vrai, hein, ce qu'ont dit mes deux confrères sur le côté exofiction. Alors, le fait qu'un romancier va choisir de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est ça que voudrait dire le terme exofiction.
Ça demeure un petit peu,
c'est
il y a
plutôt...
les exofictions picturales cette année, hein, beaucoup autour de...
On a moins j'ai l'impression que les romanciers, cette année, se sont affranchis de ce genre de béquilles, comme s'il était plus facile de s'appuyer sur un personnage réel, de suivre finalement aussi le cours d'une vie, le cours d'une histoire, d'une histoire particulière. Il y a beaucoup plus de liberté, et puis j'ai l'impression que si on doit parler de tendance, en tout cas, alors c'est peut-être aussi lié, Eric parlait du terrorisme, mais aussi le monde animal est très présent. On regarde le livre de Jean-Baptiste Delamo ou le livre de Céline Minard, alors qu'il serait sur l'animal et même le végétal. L'impression finalement
même le
que
minéral.
Et le minéral, que finalement, voilà, il y a moins d'appui sur l'humain que sur autre chose, ou du moins l'humain qui se confronte à d'autres règnes. Et ça, je trouve ça intéressant. Après, je sais pas si c'est une tendance, et je crois pas, peut-être, oui, le terrorisme évidemment infuse un peu là-dedans.
C'est un effet ou exactement. Une circonstance, c'est pas vraiment une tendance.
Voilà, mais j'ai parfois l'impression toujours que les romanciers français vivent un peu en dehors du monde. Finalement, sur le terrorisme, sur cette violence-là, il y a assez peu de choses, en fait, je trouve.
Pour vous contredire un peu, quand même, sur l'exofiction, Elisabeth Philippe, il y a quand même ces romans sur la peinture qui se sont inspirés de peintres. Il y en a un sur Van Gogh, un sur Monet, un sur Bonnard. On ne peut pas dire que l'exofiction, elle a un petit peu changé. Elle s'inspire plus sur de l'art visuel.
Et Ayrton Senna aussi, oui, tout à fait.
N'était pas un peintre.
Il fait de la peinture, mais autrement. Voilà.
Elisabeth Philippe.
Oui, moi je sais pas si c'est une catégorie. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on est très content d'avoir trouvé ce nouveau terme d'exofiction. Ça fait très chic, c'est un peu savant. C'est pas non plus une nouveauté absolue.
Quand Zweig faisait Magellan, Marie Stuart, on parlait pas.
Voilà, bon là il se trouve qu'effectivement il y a quelques livres sur des peintres, mais bon pour moi c'est pas une tendance forcément très saillante ni très emblématique de. D'un mouvement ou d'un courant.
Sur les romans un peu auto-fictionnels et avec des éléments autobiographiques, on a l'impression que c'est plus flou pour le coup. Il y a des petits éléments. On retrouve Hanoï, justement, chez Lynn Papin, mais en même temps, l'histoire est une fiction. On a des éléments comme ça, un peu diffus. Eric Loré.
Oui, il y a beaucoup. Enfin, moi, ce qui me semble, mais chacun regarde. D'une certaine façon, politiquement, socialement. Il y a beaucoup de romans français, comme le dit Christophe Ono Dibio, c'est-à-dire qui sont assez imperméables finalement à ce qui peut arriver dans le monde, ce qui n'est pas le cas du tout dans la grande littérature américaine, mais enfin ça, ce sont des traditions culturelles. On l'a dit, il n'y a rien sur les migrants, par exemple, alors que...
La révolution de 1848, elles étaient en littérature presque immédiatement.
Et donc, du coup, si l'autofiction est en régression, il y a quand même la fiction familiale qui, moi, me semble assez, assez prégnante, ce que j'ai appelé des fictions d'héritiers, finalement, qui racontent, alors en général, l'épopée d'une famille, liée, alors ça va revenir peut-être à votre question sur la peinture, liée à des mouvements artistiques, par exemple, parce que pourquoi, effectivement, des exofictions sur la peinture, parce que c'est la figure de l'artiste, et que donc ça permet, comme le disent les universitaires plus éminents que moi, ça permet à l'écrivain de se poser la question de sa place à l'occasion de cette exofiction dans la société. Donc souvent, on va avoir ça, le roman familial lié à une épopée d'écrivains, d'artistes, de navigateurs, de découvreurs, de tout ce que vous voulez, qui sont plus ou moins arrangés, qui ne sont pas vraiment des autofictions, mais en effet, qui ne sont pas strictement nombrilistes. Ceci dit, on va retrouver aussi des histoires d'amour avec des couples très parisiens où, curieusement, presque de façon obscène, les attentats sont une espèce de décor. Et alors, hop, il y a une bombe qui a explosé, comme si ça ne les affectait pas du tout, comme si ça avait été écrit en 1950. Donc là, une espèce de surdité très étrange.
Je voudrais juste un petit peu nuancer, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à établir cette dichotomie, voilà, d'un côté les romans intimistes, de l'autre les romans politiques, et toujours, voilà.
Théoriquement, ils devraient fusionner.
Je trouve qu'il y a beaucoup de romans.
Déjà, il y a les romans familiaux trash, hein, quand même aussi. Il y a quand même le cannibale.
Oui, alors celui-là est très particulier en effet, de Régis Geoffrey. Mais je pense qu'il y a des romans qui parlent de choses très intimes et qui sont éminemment politiques. J'ai notamment en tête le livre de Léonore Amiano, Crépuscule du tourment, où ce sont quatre voix de femmes qui parlent du rapport à leur corps, mais derrière ce sont quatre femmes d'un pays d'Afrique subsaharienne qui n'est pas nommé, et derrière il y a une espèce de parallèle qui s'établit entre la réappropriation de ce corps par les femmes et la réappropriation de son destin par le pays anciennement colonisé. Donc il y a la question de la colonisation, de la domination masculine, de la domination de l'homme blanc, c'est quand même des questions extrêmement politiques et prégnantes aujourd'hui. d'aujourd'hui, très contemporaine, et on part pourtant de réflexions sur le désir, sur la sexualité, sur le corps.
Sur donc, l'enfance, Gaël Faye par exemple, Petit Pays, exactement. Sur Rwanda et le Burundi.
Donc je
aussi,
pense qu'on ne peut pas comme ça établir une frontière totalement étanche entre d'un côté des livres personnels et de l'autre des livres politiques. Je pense que il y a des livres
et
qui parviennent à amener
les
deux.
Et puis quand on regarde un des gros livres de la rentrée, que j'ai vraiment adoré, qui est le livre de Santiago Amigorena, qui s'appelle Les Premières Fois, alors c'est vrai qu'il poursuit une œuvre qu'on pourrait appeler autofictive, très très sous influence proustienne.
Sur l'adolescence,
sur l'adolescence,
Les
premières fois, d'amitié, les études, l'indépendance, jusqu'à Patmos à la fin. Et on a vraiment, avec beaucoup d'auto-ironie aussi, une autofiction qui est sublimée, on va peut-être en parler avec Salman Rushdie, mais on a beaucoup parlé du retour de la figure de Scheherazade avec le Salman Rushdie. Chez Amigorena, c'est presque une Scheherazade qui voudrait absolument non pas éviter la mort, mais éviter la perte de l'hymen, quoi, de la première fois, et qui écrit sur sa vie pour se remémorer. Il y a une phrase que j'adore d'Amigorena là-dedans. Survivre à mon passé en recherchant mon temps perdu me suffit. Alors on pourrait dire c'est affreusement nombriliste, sauf que ça fait, je trouve, une œuvre absolument vivante, palpitante, humaine, pas du tout sèche, quoi, mais abondante, et moi j'adore, quoi. Donc c'est vrai que ces catégories-là, au fond, nous demander de faire des tendances, on essaie, mais c'est un peu plus compliqué. Et je crois qu'on aime aussi ce métier-là parce que ça nous permet de chercher les singularités et peut-être pas justement ce qui les rassemble, mais bon, on va essayer.
Elisabeth Philippe, vous avez commencé à aborder la question des femmes. Les femmes, sans vouloir faire du tout une catégorie écrivain femme, femme écrivain ou je ne sais quoi, il y a quand même une montée en puissance, il y a une importance.
Oui, moi je trouve, c'est ce qui m'apparaît très fortement.
Tant dans la littérature étrangère qu'en littérature
absolument,
française.
Absolument. Littérature étrangère, on peut évoquer la très jeune Emma Klein, 27 ans, qui donc signe The Girls sur les jeunes femmes, les jeunes filles qui faisait partie de la famille de Charles Manson et qui ont commis donc ces meurtres épouvantables. Livre dont on pouvait craindre le gros coup marketing, très jeune femme qui a signé un premier contrat mirobolant à coût de millions de dollars, loué par Lena Dunham, l'actrice de Girls. Et c'est un livre d'une très très grande subtilité, extrêmement fort aussi, d'une puissance toxique et poétique magnifique.
Sur le groupe de filles, mais aussi sur l'adolescence. Hein, pour revenir aux questions des premières fois, ce qui l'intéresse, c'est la question de l'adolescence.
Absolument. Et comment trouver sa place, donc dans une famille, et là ça sera cette famille absolument funeste et morbide, la famille de Manson. Je pense aussi à Laila Slimani qui signe un deuxième roman chez Gallimard, Chanson douce, un roman extrêmement glaçant sur une nounou meurtrière, Yasmina Reza, Chris Krauss aussi,
I Love Dick,
alors un titre...
Titre ambigu
pour les... Je pense que même les noms anglophones comprendront le jeu de mots.
Ça veut dire J'aime Richard, non?
C'est ça, il s'appelle
J'aime Richard. Ou le premier roman de Negar Javadi aussi, une auteure d'origine iranienne qui raconte l'histoire d'une jeune femme, et à travers l'histoire de cette jeune femme, histoire très personnelle, raconte aussi l'histoire de l'Iran. Ça, c'est très...
Sur plusieurs générations, en reprenant cette tradition qu'on retrouve.
Des récits enchâssés
sur trois générations avec en toile de fond la tradition familiale et puis histoire du pays.
Absolument.
Et c'est vrai que pour en revenir à ce que tu disais sur Emma Klein et sur l'exofiction dont on parlait au début de cette émission, je trouve que la force vraiment de ce livre, et le tour de force d'ailleurs de ce livre, c'est que certes, il y a Manson, il y a ce décor absolument atroce, mais au fond, ce qui est très intéressant dans le livre, c'est qu'elle travaille la question de l'adolescence et de la fascination, répulsion, sur l'emprise aussi. Donc elle est sur des thèmes très universels. D'ailleurs, elle a changé les noms. Oui. Évidemment, personne
n'est
dupe. C'est
Russell.
Et il n'est pas du tout au centre. Le sujet, c'est vraiment cette adolescence, cette période de toutes les métamorphoses, cette période des premières fois et de fascination, répulsion. Et comment on trouve sa place dans un groupe, c'est ça vraiment.
Oui, tout à fait. Et je voudrais juste signaler la traduction, parce qu'on cite trop peu les traducteurs, et traduction magistrale de Jean Hesch de ce livre vraiment sublime, qui rend tout à fait justice à la langue d'Emma Klein.
La question des femmes et de leur manière de traiter aussi certaines questions, elle revient aussi à travers le roman de Lynn Papin, qui est la plus jeune de cette rentrée littéraire dans les premiers romans, 21 ans.
Avec l'éveil, donc un livre effectivement sur l'éveil à la chair, au désir, avec quatre personnages. Il y a une forme de triangulation amoureuse aussi. C'est un roman très... ouais, très sensuel, dans cette moiteur de Hanoï. Et d'ailleurs, il y avait un entretien croisé, je crois, dans le magazine Elle, entre Lynn Papin et Annie Arnaud, qui était extrêmement intéressante. Donc, il y a aussi cette transmission. On aime évidemment découvrir des nouvelles voix, puis essayer de voir dans quelle lignée elles s'inscrivent, dans quel héritage elles mettent leur pas. Donc, c'est, oui, Lynn Papin, ça fait partie aussi des belles découvertes.
Ah, il y a encore beaucoup de romans qui parlent d'amour, cette rentrée.
Oui, non, j'ai poursuivi sur Lynn Papin, je trouvais qu'elle avait une très belle écriture, disons, au niveau de la retranscription, de la perception. Elle arrive à fabriquer des ressentis, voilà, qu'on n'a jamais lus ailleurs. Après, je suis pas convaincu que l'expérience générale qu'elle raconte soit extrêmement originale ou indispensable ou apporte quoi que ce soit, mais la façon qu'elle trouve de l'écrire, la forme elle-même, là, pour le coup, c'est à mon sens, du jamais lu. Ouais. Donc, à votre question, effectivement, qui était des tendances.
Fait un moment qu'on a passé la question. Ouais.
On joue autour de à quoi ça sert, en fait, finalement. C'est-à-dire que fiction exo sur les autres, fiction sur soi, fiction sur la famille, sur son nombril, tous ces vecteurs sont valables. Fiction historique, à condition qu'on se dise et qu'on sache à quoi on les fait servir, à quoi ça peut servir pour un lecteur. Là, évidemment, il y a plein de réponses, et en général, dans une rentrée, il y a de quoi satisfaire tout le monde.
Il y a des nombrils, des histoires de nombrils formidables.
Ben, exactement.
Condition littéraire.
Évidemment. Tout à fait. Donc, c'est à quoi, est-ce que ça se réduit, effectivement, à une forme qui tourne en boule, ou bien est-ce que ça peut aller vers autre chose?
Christophe,
ce que dit Eric, je vais pas reparler de Lynn Papin, je suis tout à fait d'accord.
Donc sur l'amour, c'est pas vrai. C'était pour
tout. Mais c'est vrai, un des grands plaisirs.
La question suivante tout à l'heure.
Un des grands plaisirs aussi de ce moment, de cette spécialité française qui est la rentrée littéraire, c'est aussi de voir émerger, fleurir des premiers romans, c'est-à-dire de suivre, bien sûr, à la fois de suivre les auteurs qu'on aime bien et dont on c'est un nouvel épisode de vie, qu'est-ce qu'il va nous dire, quel est le style, est-ce qu'il change, est-ce qu'il prend des risques, voilà. Et les premiers romans et les premiers pas en littérature. Et c'est vrai qu'un livre comme celui de Froger aussi chez Actes Sud, sauf qu'il peut la révolution, qui est beaucoup plus expérimental, qui fait croiser en fait Godard et Danton à travers l'histoire d'un scénario.
Alors là aussi, on peut parler un peu d'exofiction, intervenir dans la fiction des personnages qui sont rentrés dans l'imaginaire.
Ouais, sauf qu'il s'amuse. En fait, il prend, on a l'impression vraiment d'un petit chimiste, peut-être d'un grand chimiste, mais qui s'amuse à croiser justement ces personnages. Il ne suit pas, je veux dire, un fil absolument rectiligne, le fil d'un destin, qui peut aussi donner des bons livres. Hein. Attendez, je ne suis pas en train du tout de critiquer ça, mais dans ces premiers pas-là, voilà, Lynn Papin, Grâce Duracienne, Hanoï, Moiteur, ce jeune homme aux yeux d'or, tout à fait charmant. Et quand je dis charmant, c'est pas pour dire.
Est-ce
c'est
qu'on
une
dit
chose.
Pas toujours Grâce Duracienne chaque fois qu'on parle un peu
de la Grâce Duracienne à cause de l'amant, quoi.
Ouais,
évidemment.
Ouais, ouais. Puis une langue aussi, voilà. Parfois un peu en suspens, un peu.
Et puis Froger, dans le sens expérimental, on pourrait parler d'Aliz Amir aussi. Alors on a parlé beaucoup de lui à cause de cette histoire de visa qu'il a eue. C'est un jeune Comorien qui publie un premier livre au Tripode, Anguille Souroche. Sur une femme qui se noie, et on est beaucoup dans le flux de conscience. Alors là, on pourrait parler de Virginia Woolf.
Tout se passe autour de cette noyade, hein, dans une seule phrase. Ça se discute. Hein,
une sorte de long souffle de grande mélopée.
Okay, du montage.
Non, mais c'est des virgules en réalité. C'est la mise en page qui fait qu'il y a des séparations de textes, mais c'est une seule page.
C'est un long souffle, une longue spirale qui reprend le mouvement peut-être de la noyade et de la femme qui tombe au fond. Bon ben ça, moi je suis content de découvrir un auteur comme ça. Je parlais du Faye, Lynn Papin en a parlé, Froger, Aliz Amir. Ça fait plaisir de découvrir ça aussi. J'ai beaucoup aimé l'opticien de Lampedusa aussi, alors basé sur une histoire vraie. Aux Équateurs, parce que j'aime bien l'idée que ce soit un opticien qui voit ces migrants qui arrivent sur cette petite île et qui interroge aussi notre façon de les regarder ou de les grossir, ou de les voir trop de loin.
On va d'un thème à l'autre très vite.
Mais c'est des premiers romans, voilà, c'est ça.
En tout cas, sur cette question formelle, donc vous avez évoqué la phrase unique d'Aliz Amir, il y a aussi ce récit de Harry Parker, pour le coup en littérature étrangère, le récit par les objets, c'est 45 objets.
Ah oui. Elisabeth, c'est le récit d'un. Donc c'est un ancien soldat. Un soldat qui a perdu britannique. Donc, l'auteur Harry Parker est un ancien soldat qui a perdu ses jambes en Afghanistan en sautant sur un engin explosif et raconte l'histoire d'un jeune capitaine britannique, Tom Barnes, je crois, si je ne m'abuse. Voilà, à qui arrive la même tragédie. Donc, il saute également sur un engin explosif et son accident, enfin, cette tragédie racontée par le biais des objets, donc par par la prothèse, par le sac d'engrais qui va servir à faire la bombe, par les tuyaux, les sondes, par enfin voilà, par toutes sortes de choses, par un coussin. Enfin, je me souviens plus exactement, mais voilà, c'est un procédé qui pourrait paraître assez artificiel, mais qui fonctionne, qui montre également, qui redonne, je trouve, à une époque où la guerre est un peu déréalisée, où elle est omniprésente, mais déréalisée avec les drones. D'ailleurs, il y a un livre sur les drones aussi de Boris Bergman.
Là, c'est un nouveau prisme.
C'est un nouveau prisme. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au livre de Dalton Trumbo, Johnny s'en va en guerre, où pareil, c'était un soldat qui a perdu l'ouïe, la parole.
Ce magnifique film.
Ses bras et ses jambes. Et voilà.
On est très, vous parliez d'art tout à l'heure, on est très aussi dans la performance d'art contemporain. On pense aussi au travail d'un Boltanski, aussi sur l'objet, de nous rappeler aussi la matérialité de ces choses-là. Et
mais à la poésie.
Les histoires qu'il y a derrière, la poésie, les inventaires,
les objets. Et ça, on parlait de tendance, parce qu'on est pénible, on revient toujours aux tendances. Voilà. Finalement, on aime cette première question après l'avoir balayée.
On a besoin de catégoriser un peu.
Mais il y a beaucoup de romans sur la guerre, aussi en cette rentrée, qui l'abordent. Et voilà, et depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a eu Kevin Powers aussi qui avait écrit un magnifique livre, Yellow Birds, chez Stock, il y a 3 ans, je crois, pareil, sur son expérience en Irak. Voilà, donc.
C'est un peu des versions revisitées, des thèmes qu'on avait pu connaître, des post-traumatiques. Là, ce terme apparaît beaucoup aussi, même pour les livres d'après-attentat, après le trauma, les romans d'après, la littérature d'après. Ça a du sens pour vous, Éric Leray ?
C'est une appellation médiatique, effectivement. Oui, on l'a
c'est
lu.
C'est que médiatique.
On a dit la France d'après, donc aussi la littérature d'après. Quand on dit ça, évidemment, on invoque les fantômes de la littérature d'après Auschwitz chez Adorno, évidemment. Donc, c'est un peu difficile à entendre comme expression. Il est évident qu'on pourrait s'amuser à faire une nomenclature. En effet, après trauma, des ouvrages qui sont directement dans le traumatisme, c'est-à-dire qui racontent le soir du Bataclan, par exemple.
Il y en a cette rentrée aussi.
Voilà, un peu plus. Oui, mais il y en a, effectivement, il y en a au moins deux. De Laurence Tardieu, qui, elle, un petit peu plus éloignée, parle de la perte et de l'aménagement de la maison. Donc, c'est sur habiter, en quelque sorte, habiter en poète ou pas. Et puis, les échos du terrorisme. Et puis, encore plus loin, on pourrait dire qu'en effet, peut-être que la question de l'insurrection dans le 14 juillet de Villars, finalement, nous ramène à un autre effet qui serait nuit debout, si on peut dire que les mouvements sociaux sont, en effet, des effets liés à la reconfiguration politique des démocraties occidentales.
Avec ce travail
donc on
sur
pourrait
le...
effectivement voilà, faire comme ça, il y a une espèce de
Et puis interroger
de
ce
de
mot
cercle.
Qu'on entend mais absolument partout dans les discours politiques aujourd'hui, qui est le mot « peuple ». Et c'est ça aussi l'intérêt du livre de Villars, c'est interroger le peuple et justement remettre des individus, les nommer et faire un petit travail comme ça.
Alors, il faut raconter un peu justement la particularité de ce livre, c'est qu'il change de point de vue sur le 14 juillet.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on a toujours des représentations du 14 juillet comme quelque chose de massif, comme un élan populaire. Et il va, comme ce qu'il avait fait d'ailleurs autour de Buffalo Bill et des questions de représentation et de notions de spectaculaire, qu'est-ce que c'est que l'invention du spectacle, en menant un travail d'enquête absolument précis, que fait aussi d'ailleurs un Jablonka dans un autre genre, pour interroger justement cette notion de moment, d'histoire, et qui sont justement les acteurs de l'histoire, qui
et
étaient
du
les personnages,
et
du
temps, on raconte
de l'instant. Exactement.
De quel point de vue on raconte l'histoire. Le 14 juillet qui a quand même inspiré plusieurs auteurs de cette rentrée, puisque Thierry Froger aussi s'inspire de ce moment de la Révolution. Il y a des hasards comme ça dans les rentrées. Les deux auteurs Actes Sud.
On ne sait pas si l'insurrection ou le goût de la Révolution est un hasard particulier. Oui, bah, peut-être qu'il se parle, je ne sais pas. Non, mais sur la question du peuple, on a parlé de Laetitia très brièvement.
On va revenir.
Jablonka, qui est un
historien. Je ne vais pas vous spoiler.
Non, allez-y, Yvan Jablonka, allons-y.
Mais effectivement, la question de la représentation du peuple, elle est aussi chez Chloé Thomas, par exemple, dans ce premier roman chez Gallimard.
Sur les lieux communs.
Voilà, les lieux communs, où on a deux générations. Alors, une première génération de 68 arts tardifs, en fait, qui ont tout raté, enfin, qui sont arrivés un peu à côté. Puis, ils ne savaient pas trop. Ils ont essayé d'être ouvriers, évidemment, ils n'y arrivaient pas. Donc, la difficulté de révolutionner, d'être à gauche, enfin, toutes ces choses-là, qui sont reprises par une génération, pour le coup, de vingtenaires ou trentenaires aujourd'hui, qui se demandent comment est-ce qu'ils pourraient faire fructifier cette expérience ou cette non-expérience. Donc,
au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs. Hein.
Exactement, oui, puisqu'il y a aussi des rapports.
Les enfants qui sont plus matérialistes.
Voilà. Tout à fait, c'est vraiment hanté dans la vie d'aujourd'hui, quotidienne. Alors, on peut
la
se dire...
La fracture de la transmission, la question générationnelle, elle est évoquée par plusieurs plusieurs boules à lorgnette, il y a aussi le Mauvignier.
Oui,
qui évoque cette question.
Tout à fait, avec cette mère, effectivement, qui décide de faire connaître la vraie vie, d'une certaine façon, à son enfant auprès des chevaux dans les montagnes, mais qui nous ramènerait peut-être à Céline Minard et ce qu'on disait du minéral tout à l'heure, qui, bon, bizarrement, peut-être fait écho au Harry Parker, parce que Parker, ce point de vue des objets, c'est aussi un point de vue universel, un point de vue extrêmement humaniste, un point de vue neutre, un peu comme dans les films de Terrence Malick, où finalement, c'est la caméra de Dieu qui se balade et qui regarde ce qui se passe. Dans, chez Harry Parker, on a vraiment ça. Chez Minard, on a ça. Donc peut-être qu'effectivement, moi, j'ai ce sentiment qu'il y a cette, tout d'un coup ce désir d'élévation. Chez Chloé Thomas, il y aurait peut-être ça aussi.
Il y a presque un conte philosophique, hein, quelque chose. Oui, du roman ou du philosophique.
Et de refuger très d'élévation quand même à la fin.
Qui est très politique. Qui est très politique. Et c'est vrai qu'on a... Moi, j'ai eu l'impression, en lisant le Céline Minard, de relire un peu... Diogène et de voir cette fameuse parabole où Diogène sort avec sa lanterne en se promenant dans les rues d'Athènes et en disant je cherche un homme et sous-entendu je n'en trouve jamais. Elle trouvera d'ailleurs un homme, l'héroïne de
Minard. Mais c'est aussi presque le cas. C'est presque aussi Cadio, retour définitif et durable de l'être aimé parce qu'il va se planquer sous un balcon et il rencontre un ermite. À la
exactement.
Fin. Et bon, ce qui est une fable commune par ailleurs, mais ce désir comme ça de refuge et de s'exposer.
Et puis
cette
description chez Minard par exemple où le livre de Parker dont tu parlais aussi, c'est-à-dire que le fait de dire il est temps aussi de décrire le monde, la description comme moyen de s'ouvrir au monde et peut-être de l'inventorier avant, je ne sais pas, une possible disparition.
Avec l'expérience de soi, l'expérience un peu extrême, se mettre en situation de danger face à la nature.
Exactement. Et ça, c'est très, pour moi, c'est évidemment très très politique, même si ça ne parle pas des attentats directement, parce qu'il y a une vraie interrogation sur notre place au monde. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? Et on est là, est-ce qu'on est là pour agir? Est-ce qu'on est là pour être? Ça, moi, ça me passionne.
Elisabeth Philippe.
Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Christophe. C'est vrai que je pense chez Céline Minard notamment, mais dans d'autres livres, effectivement, chez Céline Minard, peut-être davantage, il y a cette dimension métaphysique. Christophe parlait de Diogène, moi j'ai aussi lu des échos de Sénèque, enfin voilà, des stoïciens, trouver une retraite. Et je pense que c'est une question éminemment présente en ce moment. Désir, je pense qu'on a tous ressenti au moins une fois ces derniers temps, de fuir le chaos du monde et d'aller se réfugier et de prendre le temps de se poser ces questions essentielles. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi on est là? Enfin, des questions qui peuvent paraître bateaux, ces questions métaphysiques éternelles, mais qui reprennent du relief dans des moments chaotiques comme ceux qu'on peut vivre voilà, en ce moment. Et je trouve qu'en ce sens-là, de par même sa dimension métaphysique, le livre de Céline Minard est très, très politique parce qu'il fait écho à ces questionnements qui nous traversent très fortement aujourd'hui.
Éric Cloré, vous disiez qu'un certain nombre d'écrivains, parfois, écrivent sur complètement autre chose que ce qui se passe et les attentats servir de toile de fond.
Ça, ils ont tout à fait raison.
Et ne sont pas évoqués, non, mais sans éléments critiques. Il y a aussi ceux qui ont été très touchés, notamment par certains faits divers et qui ont écrit dessus. Alors, la question du fait divers qui devient un objet de roman ou en tout cas un objet de fiction, on l'avait déjà connu par le passé avec Régis Jauffray.
Par exemple, oui.
Dans ses vers.
On pense surtout à Jauffray, en fait.
Ouais. Et ici, c'est Jablonka qui reprend l'histoire.
Et à chaque fois qu'on mentionne le fait divers, on parle de sang froid et on ne sort pas de là.
C'est ça. Et, bon, alors, en cette rentrée.
Il faudrait en sortir.
J'en ai même pas parlé.
Non, mais je disais ça parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'il y a.
Alors,
des romans. Mais bien sûr,
Mais de sang froid, c'est pas le même genre, justement. C'est-à-dire que là, la Manson Family, elle est aussi chez Liberati, bien entendu.
Oui, c'est California
Girl. On l'a pas signalé chez Harold Cobert avec L'Ogre et la Mésange, c'est l'affaire Fournirait.
Oui, c'est les échos un peu étranges qui arrivent parfois.
Alors là, il y a peut-être effectivement une conjonction. Le récit de crime, c'est pas... c'est moi, Pierre Rivière, hein, le texte ressorti par Foucault qui dit en postface le récit de crime. On peut penser à Détective, au livre de colportage, à tout ce que vous voulez, c'est-à-dire ces récits qui défraient la chronique, aux chroniques au sens historique, littéral, où on vous dit, oui, alors, il a découpé en morceaux dans la malle, machin, et puis à la fin, devant l'échafaud, il a dit, je vous embête tous, et tout ça. Donc c'est le truc canonique. C'est le moment où le rapport du pouvoir et du peuple, finalement, sont mis en scène le plus littéralement. Et donc, chez Jablonka, il y a vraiment ça, en fait. Je crois à la fois parce que c'est une fille du peuple, entre guillemets, dans la
peut-être
peau.
Peut-être raconter l'idée. Hein,
oui, alors c'est l'affaire Laetitia Perret, qui date de 2011, qui nous a un petit peu échappé, peut-être. Enfin, moi,
qui est devenue une affaire d'État,
en accusant les juges d'avoir laissé le meurtrier,
voilà, il a promis des châtiments
aux magistrats.
Aux magistrats, voilà. Il y aurait des sanctions contre les magistrats, puisqu'ils avaient laissé un.
Elle est présentée comme telle par l'auteur. Hein, c'est l'histoire d'un fait divers qui devient une affaire d'État.
Alors, si bien que dans Laetitia, comme il l'annonce dès le début, en fait, hein, il reprend ce que dit Foucault, il dit bon, bah, là, en fait, un fait divers, c'est jamais que le récit d'une société. Et c'est à la fin, un petit peu bizarrement, non pas le procès de Jean-Marie Le Pen, le titre de Mathieu Lindon, c'est le procès de Nicolas Sarkozy, hein, Laetitia, ou la fin des hommes, parce qu'il établit tout au long du livre parfois, on pourra penser que c'est exagéré, lui-même d'ailleurs dit bon, pour pas tout mélanger, il établit un parallèle entre Thierry Meillon qui scie Laetitia au propre avec une scie pour la découper en morceaux et Nicolas Sarkozy qui, par ses discours, découpe le corps social en semant la zizanie.
Et la manière dont l'histoire est relayée, puisque divers en fait fictionnel, mais aussi l'idée, donc, c'est qu'on s'intéresse, il faut quand même peut-être parler de l'hypothèse de départ, c'est que dans un fait divers, on ne s'intéresserait qu'au bourreau,
et là, c'est la victime,
qui lui deviendrait le vrai héros, sûr, et la victime n'a pour elle que d'être innocente.
D'où ce titre.
Et donc l'idée, c'est de rendre sa dignité.
Et là, c'est la question du témoin, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'un petit peu comme l'avait fait Yannick Enel, par exemple, avec Yann Karski, quand il disait qu'il voulait témoigner, là aussi, Jablonka voudrait témoigner de l'existence et de la souffrance. Il voudrait relever, rédimer, il le dit dès le début.
Lui rendre sa dignité.
Rendre sa dignité à cette victime. Alors, effectivement, il fouille son Facebook, il va interviewer tout le monde, il voit sa sœur. Et il me semble, je ne sais pas comment l'ont senti mes collègues, que malgré tout, ce travail d'identification qui justifierait, en tout cas, qu'on puisse raconter cette histoire-là de cette façon-là, qui lui permettrait d'être vraiment un témoin plutôt que, comme nous, un voyeur, parce qu'il y a quand même aussi un plaisir de voyeurisme, malgré tout, à ses récits de crimes, initialement. Il me semble qu'à un moment, il s'aperçoit quand même que ça échoue. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tout à fait être... Il dit « Laetitia, c'est moi », c'est l'avant-dernier chapitre. Que ça ne fonctionne quand même pas tout à fait.
Elisabeth
Mais en tout cas,
Philippe,
ça pose la question. Voilà, ça
c'est
pose
aussi l'histoire quand même d'un écrivain qui écrit sur ce qu'il a touché.
Oui, alors moi je suis un peu gênée pour parler de Laetitia parce que je l'ai pas lu.
Il n'a pas fait partie de vos
pas encore, pas encore. Et voilà, j'ai très envie. Mais
il n'est pas encore lu les 560 livres. Christophe Onodibio, Laetitia.
C'est vrai, pour rejoindre ce que disait Eric, il y a le constat peut-être d'impuissance, mais il le dit très bien, il cherche des traces en fait. Ça me rappelle encore une fois Harry Parker, quoi, sur l'objet. Alors c'est pas des objets, c'est pas matérialisé comme ça, mais tu parlais de la page Facebook,
si, un peu, parce
les
que
gens qui l'entourent.
La liste de ce qu'il écoute, ses objets, s'il y a une visite dans sa chambre, je crois.
Il dit « J'essaie d'enregistrer à la surface de l'eau les cercles éphémères qu'ont laissé les êtres en coulant à pic. » Pour moi, c'est vraiment un tombeau à la fois pour cette jeune fille, mais c'est surtout une histoire de France. D'ailleurs, il est historien, et vous le disiez très bien, hein, comment un meurtre abject devient une affaire d'État. Il y a toute une analyse aussi des mécanismes. C'est pour ça que c'est un livre très, très curieux. Hein.
C'est le statut d'ailleurs du fait divers qui le fait évoluer. C'est
exactement.
Comment est-ce qu'on peut... C'est presque un travail de mémoire qu'il propose, mais sur un fait encore très frais.
Il y a de grands chapitres sur le fonctionnement médiatique, sur le fonctionnement de la justice aussi. On pense au livre de Guy Louis aussi, quand il parle aussi de cette France, ces zones de France d'extrême pauvreté, de violence conjugale, on a vraiment une sorte de concentré, de tombeau, vraiment un tombeau pour Laetitia, un tombeau au sens littéraire, comme tombeau d'Edgar Poe, de Mallarmé, mais tombeau, surtout tombeau, tombeau pour la France, quoi, je trouve. Moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment touché, et puis par le mécanisme, cette enquête par strates, même si je suis d'accord avec toi, Eric, ce constat d'impuissance finalement à réussir à... Mais j'aime bien, ça me touche assez, cette...
Sur le travail,
c'est pas un
presque
pour moi,
avoué,
c'est...
en fait.
Oui, voilà. Bien sûr, voilà, voilà. C'est une limite infranchissable devant laquelle il se...
Et beaucoup de cette rhétorique compassionnelle, ça j'ai beaucoup aimé, tous les passages qui parlent de cette rhétorique compassionnelle dans laquelle on est totalement, et qui d'ailleurs imprègne, imbibe, enivre la politique, pour qu'il ne reste plus que ça, qui est très très bien étudié et pourfendu totalement dans le livre.
Avec cette question du deuil qui est creusée aussi sous plusieurs aspects dans cette rentrée, il y a aussi justement le livre de Mauvignon, on en parlait, Philippe Forest aussi, qui signe un roman chez Gallimard, Cru. Il ne me fait pas réagir, pas tout de suite. Jérôme Chantreau dans les premiers romans.
Son œuvre est hantée par ça, depuis le début. Oui.
Jérôme Chantreau aussi, qui s'est intéressé à la question du deuil. Oui,
non, j'avoue, il y avait une image de la Sainte Vierge et puis à faire part dans le Figaro pour les amis, donc puis aller dans la forêt. Alors je me suis dit que c'était pas pour moi.
Et dans les surprises.
C'est la seule question.
Puis-je profiter de l'expérience de l'auteur?
Dans les surprises, Elisabeth Philippe, vous avez eu des surprises de lectrice?
Alors j'ai eu moins de surprises que les années précédentes. Voilà, je dois l'avouer, mais c'est que le début, comme le disait Christophe. Ali Zamir, le jeune Comorien dont Christophe parlait tout à l'heure, ça fait partie des surprises. Surprise parce que j'étais agréablement surprise par le premier vrai roman de Yasmina Reza, Babylone, chez Flammarion. J'ai trouvé assez savoureux. C'est l'histoire de Jean Lino, c'est ça le nom du personnage, oui. Voilà, déjà Jean Lino, ben on l'adore, et l'histoire est racontée par la voisine de Jean Lino, Elisabeth. Elle s'appelle Elisabeth, et elle est très proche de ce Jean Lino, qui est une espèce de gros nounours engoncé dans son perfecto Zara un peu trop court, qui aime d'amour son chat Eduardo, qui susurre des mamours en italien, qui est adorable avec le petit-fils de sa compagne, alors que le gamin est absolument odieux. Enfin voilà, on a beaucoup d'affection pour Jean Lino. Or, Jean Lino va commettre un crime.
Avec cette fête, tout décline à un moment de
fête.
Tout
part d'un dîner qu'organise Elisabeth.
Donc cette fête finit toujours mal.
Fête, le grand rendez-vous.
Et là, évidemment, le don d'observation maniaque et la minutie de Yasmina Reza font merveille. Dans cette description des manies de chacun, des tics qui sont révélateurs des classes sociales et de l'appartenance sociale de chaque personnage. Donc là, c'est au cordeau, avec énormément d'humour assez noir. Et donc voilà, au sortir de ce dîner, pendant lequel il y a une discussion qui dérape un peu, puisque Lydie, la compagne de Jean Lino, est une fervente défenseur des animaux. Et voilà, c'est une discussion sur les poulets, sur la façon dont on abat les poulets. Et tout le monde se moque de Lydie, et Lydie est très en colère. Et voilà, et à partir de là, ça va dégénérer.
Parce que les mâles ou les femelles, quand on trie les poussins, il y a tout un dialogue vraiment
sexiste,
très, très, très
sexisme,
belle page. Voilà,
comment, en même temps, un peu lunaire. On a des scènes rocambolesques où Elisabeth vient d'apprendre que Jean Lino a refroidi Lydie, hein, je dévoile rien, c'est dit très vite. Et Elisabeth, donc ça arrive en pleine nuit, se retrouve sur la scène de crime en nuisette Hello Kitty. C'est quand même assez.
Donc l'animal assez dont on parlait, vous vouliez des tendances,
le poulet
Kitty.
Ouais. Et il y a le chat. Et
donc la ferme chez Delano, on a bien avancé. Céline Minard, la conversation avec le jet.
Et avec la marmotte.
Et l'effroi, devant la marmotte.
Ouais. Le lion.
Et le lion de Stéphane Haute-Guy aussi. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Le
les
fait
animaux.
Encore une fois, oui, de se dire que. Certains se mettent dans la peau de Ayrton Senna ou de personnages augustes. Eh bien, lui choisit un personnage auguste.
Alors, il y a les objets, il y a les animaux.
Exactement.
Et toute cette manière de
détourner. C'est une grande variété qui fait qu'on aime ça quand même.
On va donner la parole à Éric Fotorino, qui lui-même a donné la parole au libraire dans le numéro du 1 consacré à la rentrée littéraire. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous tous.
Alors, parlez-nous de ce 1 sur la rentrée.
Alors ce 1, comme vous savez, le principe c'est de plier, de déplier. Alors c'est un tout petit 1, il a le format d'un livre parce qu'on a envie que les lecteurs le gardent et on a donné en effet la parole au libraire. On est parti, vous savez, de cette vision de Valérie Larbaud, l'auteur de Fermina Marquez, qui louait le vice impuni de la lecture. Alors on a demandé à ces libraires quel était leur vice de lecture et depuis, en fait, on découvre que depuis finalement le printemps, ils lisent déjà sur épreuve. Hein. C'est un peu comme les critiques. Alors, même quelquefois, les critiques, ils ont des épreuves très très bien apprêtées. Je crois que les libraires en ont de plus en plus et donc depuis le printemps, ils font leur sélection et on est allé fouiller avec eux du côté, bien sûr en province, beaucoup. Que ce soit dans le
à Bordeaux,
à Lille, à Nantes, à Bordeaux, avec Denis Mola, mais aussi avec les jeunes libraires de la machine à lire, et puis aussi à Metz avec Anne-Marie Carlier, et on a découvert à la fois des valeurs sûres, hein, parce que certains citent les auteurs qui ont été mentionnés même dans cette émission, comme Laurent Mauvignier avec Continuer. Ou Lionel Duroy avec L'Absente qui continue son œuvre très personnelle. Et puis d'autres libraires nous ont signalé, ont aimé des livres d'auteurs moins moins connus, même s'ils ont déjà quelquefois eu l'honneur, j'allais dire, du communiqué et de la chronique. Je pense en particulier à Michel Bernard et à ses deux remords de Claude Monet. Vous savez, Michel Bernard qui avait écrit Les Forêts de Ravel, et c'est la librairie La Charpente de Douai, Marie-Pierre Oslavski, qui nous le présente. Il y a aussi un livre de Negar Djavadi qui s'appelle Désoriental. Le titre est intéressant, Désoriental.
Qu'on a évoqué sur l'Iran.
À Paris, à la librairie de la Manœuvre, qui nous le présente.
Merci beaucoup Eric Fotorino. Je rappelle que le 1 des libraires sort en kiosque et en librairie ce vendredi 26 août. Alors merci à tous les quatre. On vous retrouve dans les pages du Point, de Vanity Fair et du Monde des Livres. Je rappelle que le premier temps des écrivains de la saison sera consacré à Céline Minard et à Jean-Baptiste D'Alamo. Nous retrouverons aussi deux de ces critiques, puisque nous avons Elisabeth Philippe et Eric Lauré qui se trouveront dans la dispute d'Arnaud Laporte le vendredi 2 septembre à 21h sur France Culture.
France Culture, la grande table d'été, Maïlys Besserie.
Et c'est l'heure du live, The Pirates qui nous interprète L'Escalier.
Je suis le plus petit de mon entourage. J'écoute tout ce qu'on me dit, tous les présages, tous les avis. Et j'entends l'affranchi, j'entends l'inconverti. Même le plus si sûr de lui au fond n'est pas si sûr de lui. Et j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre dans cette vie. Ni tout seul, ni tous ensemble, mais je respecte que tu te poses toutes ces questions. Et je te souhaite de trouver tes propres raisons d'ici là. Ah, ah, la lune brille pour toi. Ah, ah, elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire. Ah, ah, c'est ma victoria. Ah, ah, c'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix. Ah, 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 ah. Ça fait 2-3 jours que tu n'es pas bien. Tu ressasses le même discours, que t'es flippé parce qu'on n'est rien. Et tu sais plus choisir entre un cuir et un blouson. C'est normal, t'es qu'un pigeon face à l'enchaînement des saisons. Ouais, t'as compris qu'il n'y avait rien à comprendre dans cette vie. Ni tout seul, ni tous ensemble, mais je respecte qu'ils se posent toutes ces questions et je leur souhaite de trouver les bonnes raisons d'ici là. Ah, ah, la lune brille pour toi. Ah, ah, elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire. Ah, ah, c'est ma victoria. Ah, ah, c'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix.
Rejoins-moi sur le toit. Viens avec moi. Viens avec moi.
Ouais, ouais, ouais,
rejoins-moi.
Attends-moi là. J'en ai rêvé.
Viens avec moi.
Et ça viendra.
Viens avec moi.
Ouais, 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 ouais.
Rejoins-moi.
Je fais des pas
sur le toit.
Dans l'escalier.
Viens avec
qui
moi.
Mène au toit.
Viens avec moi.
Ouais, ouais, ouais. Rejoins-moi. Attends-moi
sur
là.
Le toit.
J'en ai rêvé.
Viens avec
tellement
moi.
De fois.
Viens avec
ouais, 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 ouais. Rejoins-moi. Je fais des
sur
pas
sur le toit.
Dans l'escalier.
Viens avec
qui
moi.
Mène à toi.
Viens avec moi.
C'était The Pirates. Leur premier album intitulé Carrément, Carrément sera disponible dès le 16 septembre. Ils seront également en concert le 5 octobre à la Maroquinerie à Paris et le 6 octobre à l'Épicerie Moderne à Lyon. À New York, Paris et Marrakech, je me sens chez moi. Ce sont tous ces voyages et les personnalités fortes que j'y ai rencontrées qui influencent mon travail. Voilà comment Blancali imagine la création et la danse, un art mondial qui se nourrit de tout ce qui peut animer le corps. Devenue également réalisatrice, Blancali signe un film de danse inclassable, Electro-Mathématrix. Elle est aujourd'hui l'invitée du portrait de la grande table. Bonjour.
Bonjour.
Alors, filmer la danse, qu'est-ce que c'est comme challenge pour vous, Blancali?
C'est une autre manière d'inventer la danse. C'est une autre manière de la montrer aussi. Et c'est pour moi toujours un grand moment quand je peux prendre une chorégraphie et la mettre devant la caméra parce que j'ai pas seulement à réfléchir par rapport au mouvement que je vais faire dans les corps des danseurs, mais aussi à les mouvements de la caméra et comment je vais mélanger les deux. C'est ça qui est très fantastique parce que on recrée les mouvements à travers la caméra et les corps.
Ça veut dire que c'est comme si vous, vous étiez vous-même spectatrice de votre propre spectacle et qu'en le filmant, vous étiez l'œil du public.
Oui, parce que quand on crée une chorégraphie pour la scène, on a tout l'espace scénique à remplir. Donc, on regarde, on est assis sur un fauteuil, on voit tout l'espace, tous les danseurs et qu'est-ce qui se passe dans tout l'espace. Avec la caméra, on peut choisir les regards. On peut choisir où le public va regarder, que ce soit à main, un pied, on peut aller vraiment sous les détails, les regards, les visages, et la bouche, les épaules, les muscles. C'est fantastique. On redécouvre aussi les corps avec la caméra. C'est magnifique.
Ça multiplie vos possibilités. C'est comme une mise en abyme. Vous redécoupez le corps que vous avez façonné.
Oui, et en même temps, il faut vraiment savoir ce qu'on veut parce qu'il faut choisir. Et après, il y a tous les moments où on est face aux images, les moments de montage, qui est très important dans un film. Je passe énormément de temps au montage pour retrouver l'énergie de la danse, parce que aussi, c'est très important quand on filme les mouvements, de récupérer la vraie énergie qu'il y a dans les corps, qu'on peut perdre si on découpe trop, si la manière comment c'est filmé, c'est pas la bonne. On peut aussi perdre cette beauté et cette sensation que donne les corps quand on les voit en mouvement, qui est la plus belle.
C'est vrai que le cinéma pose au fond, Blancali, les mêmes questions que la danse. Il y a aussi la question du rythme.
Ouais.
Qu'on rétablit ou pas au montage.
Oui, c'est ça. Ça, c'est très incroyable parce que les temps au cinéma est beaucoup plus long que les temps au théâtre. Et je ne sais pas si c'est plus long, mais disons que la relation avec les temps est très différente. Quand je suis, par exemple, en train de créer un spectacle, je peux avoir une minute, un mouvement qui est très long, ou un silence, ou un danseur qui rentre, qui marche. Et dans la scène, on va créer une atmosphère, une sensation qui est très forte. Quand tu as, par exemple, une minute de silence dans l'image, la sensation est très différente. Donc, il faut travailler. Même tous les mouvements sont différents, la présence de les corps est différente, tout. Enfin, pour moi, vraiment, c'est presque un autre métier.
Et électromathématiques, on l'aborde tout d'abord par le son. Le son, cette musique et les bruits qui sont autour. Peut-être vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de ce film.
Le film, en fait, c'est un film qui est plein d'énergie, qui a voulu vraiment raconter l'histoire d'un groupe d'élèves qui arrive le matin dans un lycée et qui sort quand les cours sont finis l'après-midi. Et on les accompagne, ce groupe d'élèves.
D'adolescents.
Oui, des adolescents qui passent toute leur journée, mais au lieu de parler, en fait, ils vont danser. Et tout se passe en dansant les cours de maths, quand ils vont manger à la cantine, quand ils jouent au basket, enfin, tout se la danse à la fin.
Blancali, on entend les bruits du réel, on est à la cantine, on mange, etc., ouais. Qui se mélangent au bruit de la musique qui monte et qui va créer la danse.
Oui, en fait, j'ai choisi dans les films de pas avoir un langage qu'on comprenne, mais plutôt un langage universel. J'ai demandé aux danseurs qu'ils pouvaient parler, mais on ne devait pas comprendre, un peu comme les dessins animés.
C'est les yaourts, ce qu'on appelle le yaourt en chanson quand on sait pas, quand on connaît pas trop les paroles, mais on comprend l'intention de ce qui veut être dit.
C'est ça, parce que moi, ce que je voulais, c'est que les films comme la danse soient un film universel, qu'il soit vraiment d'être traduit dans toutes les langues, et que les situations qu'on a créées dans les films, qui sont très drôles, sont vraiment raconté par les corps, par les mouvements et aussi par un petit peu ces bruitages que j'ai demandé aux danseurs de faire, qui est plus proche des dessins animés que d'un dialogue normal. Mais justement, moi j'ai trouvé ça que ça correspondait très très bien à l'esprit du film. C'est ça qui donne ce côté un peu différent aussi au film.
Vous avez beaucoup travaillé sur le son, cette bande son, elle est très riche et justement les voix, elles sont déformées, trafiquées, un peu aussi comme il existe dans certains clips de hip-hop, cette voix un peu qui vibre.
Oui, je voulais justement avoir cette sensation de dessin animé. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé les voix.
On les entend parler.
in there, everybody.
Alors là, évidemment, sans l'image, c'est pas si facile, Blancali, de comprendre. Mais quand on les a sous les yeux, étrangement, ouais, l'expression de leur visage ou leur mime permettent de comprendre.
Ouais. C'est comme s'ils parlaient, en fait, on comprend parfaitement les dialogues.
Il y a beaucoup de mimes dans vos films.
Mais c'est pas de mime, c'est vraiment les mouvements, parce que moi j'ai toujours su parler mieux avec mon corps qu'avec mes paroles. Et pour moi la danse, ça a été toujours une manière de raconter les choses qui est beaucoup plus abstrait, mais qui me permettait de dire énormément de choses avec juste mon corps. Et c'est pour moi, c'est ça que j'aime de la danse, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le film. Et en fait, le film d'Electromathematrix, ça raconte ça, c'est vraiment un groupe de personnes qui arrivent à se parler avec les regards, avec les mouvements, qui rigolent ensemble, qui passent une journée entière ensemble. Et c'est un film qui est plein d'énergie, qui est drôle, qui est joyeux, qui est par moments poétique. Et je pense que c'est vraiment un film pour tous les publics. Les enfants, ils vont profiter autant que les grands pour passer un super moment.
C'est l'énergie de la jeunesse, l'énergie de l'adolescence et beaucoup de l'adolescence masculine. Il y a très peu de filles, hein. Les filles, elles arrivent soit dans le rêve, soit très tard.
Oui, en fait, déjà, ces films et tout est fait avec les danseurs. Donc, toute la figuration qu'il y a dans les lycées, c'est que les danseurs. C'est une danse très particulière, ça s'appelle la danse électro. C'est une danse qui est née à Paris, c'est une danse urbaine qui est parisienne. Et maintenant, elle commence à se développer dans d'autres pays, partout dans la France, dans d'autres régions aussi, mais elle devient très connue, par exemple, en Russie, au Mexique, il y a des compétitions internationales, mais c'est une danse qui a surgi vraiment à Paris, qui a commencé dans une discothèque. Et ces danseurs, et c'est une danse qui est assez jeune, et pour l'instant, c'est des groupes de garçons qui se réunissent. Il y a quelques filles seulement qui font la danse électro. Donc, quand j'ai fait les premières auditions, il n'y avait déjà pas les filles. Mais aussi, dans les films, ils sont tous dans un lycée technique. Et comme on sait très bien, dans les lycées techniques, il y a beaucoup, beaucoup moins de filles que de garçons.
C'était pas vraiment un choix, c'était plutôt une contrainte.
C'était une contrainte, mais en même temps, ça correspond bien à la réalité, parce que dans les classes, dans les lycées techniques, dans les lycées où il y a les cours préparatoires pour les secondes ingénieurs et tout ça, on a énormément de garçons et malheureusement très peu de filles. Donc il faut dire aux filles qu'il faut aller dans les sciences plus et dans la technologie.
La manière dont on bouge les corps justement et cette question à mi-chemin entre le jeu, le mime et la danse, est-ce que c'est des choses aussi qui venaient de peut-être de ce que vous aimiez vous en tant que spectatrice de cinéma? Vous aimiez le mime, Chaplin, Keaton?
Oui, moi j'adore la comédie physique, bien sûr Charlie Chaplin et Buster Keaton, mais
Parce qu'il y a des blagues visuelles dans ce film.
J'aime beaucoup Jack Tati et j'adorais Lucille Ball qui était une femme qui faisait une série de télévision américaine qui était très très drôle et elle se mettait toujours dans des situations super absurdes avec son corps. Moi je trouve qu'on peut raconter énormément de choses en parole, mais en plus comme je suis danseuse, pour moi c'est vraiment beaucoup plus facile d'utiliser ce langage physique.
La musique électro, elle convoque aussi, et la danse électro, un univers qui est un peu des années 90, 2000. Il y a quelque chose dans les références, on retrouve Michael Jackson, on retrouve des plaisanteries, Johnny Clegg, des allusions comme ça. C'était des clins d'œil?
Et en fait, on joue beaucoup avec ces danseurs, on improvise beaucoup, on rigole. Et ça, c'est des choses que j'ai pris en les regardant et en passant beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Et c'est des blagues qu'ils se font entre eux. Et voilà, j'ai essayé de vraiment prendre un peu leur univers et les transformer dans un monde un peu irréel qui est raconté par la danse. Mais finalement, c'est vraiment un groupe de gens qui ont une énergie incroyable et qui ont leur langage, leur manière de se parler et justement leurs blagues.
Billie the murder. It's a sitter. Oh man, I am the one. Yes, for my side. Woo.
Et Blanca Lille, de même que la danse, la musique, elle émane de beaucoup de choses. Elle émane tout d'abord de l'environnement autour. On peut taper sur les tables, taper sur les chaises et fabriquer sa propre musique. La musique, elle vient du téléphone portable qu'on met sur haut-parleur, comme le font souvent les bandes de jeunes. Et elle vient aussi de la musique qu'on écoute de manière solitaire dans ses écouteurs. Il y a tout ce rapport à la technologie.
Oui, parce que c'est un peu ça aujourd'hui. Tout le monde utilise la technologie pour tout. Et c'est ça qui est drôle dans les films aussi, c'est qu'ils sont tout le temps avec leur technologie. Et il y a les cours des computers que nous, on n'avait pas quand on était petits. Et ils sont tous les téléphones portables avec lesquels ils communiquent, ils jouent, ils écoutent la musique. Et je pense que la technologie est super, super présente dans notre vie. Donc, bien sûr, elle est présente dans le film.
Dans le film, la musique précède la danse, c'est-à-dire que généralement, ça commence par quelques sons, quelques rythmes, et au moment où la musique surgit vraiment, le mouvement l'accompagne. C'est comme ça que vous avez conçu le film, avec peut-être d'abord des images, un son, et puis ensuite la danse ?
Enfin, j'ai conçu beaucoup de choses en même temps, et des fois, il y a des chorégraphies que j'ai travaillées d'abord, avec juste un rythme, une musique, mais que la musique définitive va être faite à la fin. Et dans ce film, concrètement, il y a, disons, une partition qui a été travaillée sur mesure pour le film à la fin, une fois que les montages étaient finis, mais pendant les tournages, par exemple, tout ce qui est bruitage, ou quand on tape sur les tables, ou quand ils mangent, ou tout ce qui est rythme, tout ce qui est fait avec les corps, ça, par contre, on l'avait super répété, travaillé avant. Mais disons que la bande finale a été faite vraiment une fois que le montage du film était fini.
Utiliser l'environnement, parce que justement, cette bande de jeunes, il faut raconter peut-être une des premières scènes. Hein. Quand ils arrivent dans le lycée, ils rentrent dans la salle de classe, ils suivent la classe, mais aussi à un moment donné, les chaises valsent, les tables aussi. Et taper dessus, ça permet de faire de la musique.
Oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire la musique avec tout. Et de même dans les spectacles qu'on avait fait avant, de lesquels est inspiré ce film, on utilisait beaucoup les rythmes du corps et les rythmes des mains et on tape sur les choses. Parce que la musique, et ça aussi, la musique c'est d'abord les rythmes. Donc une fois qu'on a un rythme, on a déjà la musique. On peut danser, on peut chanter, enfin, je pense qu'on a tous les rythmes dans les corps et que c'est génial de pouvoir faire la musique avec juste une bouteille d'eau. Aux fourchettes.
Et dans la manière de bouger le corps, par exemple, le professeur arrive, commence son cours de maths et tous les élèves bougent leur tête de droite à gauche en même temps et on sent les moutons qui sont obligés d'apprendre le cours et de se synchroniser. Et cet humour-là, il passe par la danse aussi, par le rythme.
Oui, en fait, je pense que quand on est dans un cours, et c'est ça que je voulais faire avec le film aussi, c'est qu'on a tous pratiquement tous passés par l'école. On a tous vécu ce que c'est d'être dans un cours de maths, d'être dans un examen, d'aller à la cantine. On a tous vécu cette expérience de l'école pendant beaucoup d'années de notre vie. Donc, dans les films, pour moi, je voulais évoquer, pour petit et grand, chacun à sa manière, il va voir ses souvenirs ou ses moments présents, parce que je pense que les jeunes ou les enfants qui vont voir les films, ils vont rigoler de se dire, oh, je me reviens peut-être que dans ma classe ça soit comme ça. Les grands, ils vont se souvenir de quand ils étaient à l'école. Et j'aime beaucoup le thème de l'école parce que c'est quelque chose qu'on a tous dans notre mémoire ou dans notre vie. C'est vraiment un moment important de notre vie pour tous.
Et on sent que les souvenirs reviennent ici en cadence. Blanca Lille, ça passe par les machines, ce rythme-là, parce que comme on est dans une école un peu technique, justement, les machines aussi ont leur propre rythme. Et là, la musique et la danse ont presque un aspect documentaire. C'est la musique naturelle du lieu, le bruit des musiques.
Oui, en fait.
Des machines.
Oui, donc c'est un lycée qui est un lycée technique. Il y a la salle des machines où les élèves vont apprendre à utiliser différents outils pour leur futur travail. Et quand j'ai vu ça dans le repérage du lycée, j'ai adoré cette salle et je me suis dit, on va créer une scène qui se passe là. Et donc, avec les danseurs, on a travaillé, chacun prenait une machine et commençait à faire un geste qui devenait répétitif pour créer justement la musique à partir de ses premiers gestes. Après, on a tourné toute la scène avec un rythme, disons, basique qu'on a créé avec ces machines. Et après, les musiciens, Tao Gutiérrez, qui est le compositeur de la musique du film, a pris tous ces bruits qu'on a fait et lui, il a créé la bande de cette scène qui est vraiment créée à partir des bruitages qu'on avait fait avec les machines.
Les machines ont commencé à donner le rythme, mais ensuite il est repris par tous ces jeunes lycéens. Et là, on arrive dans un univers un peu afrobeat, où justement le corps a son importance avec d'autres références musicales qui entraînent aussi d'autres danses en Cali.
Oui, les danseurs, ils vont en fait commencer avec ces machines et petit à petit créer avec leur corps et les machines un rythme qui va évoluer, qui va monter jusqu'à une grande fête à la fin de la scène. Ils sont tous comme des fous en train de sauter, de danser et un peu les danses africaines. Et c'est vraiment très drôle de voir comment justement la musique aussi peut se transformer à partir de juste quelques bruits en autre chose qui n'a rien à voir à la fin.
S'inspirer de son environnement, sonore, etc. Est-ce que c'est pas une manière pour vous, qui faites aussi des spectacles dans des salles de spectacle, justement de sortir de la salle de spectacle et d'aller faire un spectacle dehors, dans la rue, dans des vrais lieux?
Moi, je m'inspirais toujours beaucoup justement de la vraie vie et des de vrais lieux et de ce qui se passe autour de moi. Et je pense que dans la vie, si on écoute et si on est vraiment attentive, il y a énormément de choses qui se passent. Et au niveau des sons, il y a beaucoup de rythmes en fait. Moi, il y a des fois que ça m'arrive d'être dans le métro et d'écouter un rythme dans les trains qui arrivent, ou d'être dans la rue et d'écouter un rythme dans juste un bouchon. Je pense qu'il y a la musique dans beaucoup de choses que des fois on ne se rend pas compte. Et ça, c'est des choses qui m'inspirent aussi.
Poser une oreille artistique sur le quotidien, quand on entend ces machines, on ne peut pas ne pas penser aussi à Dancer in the Dark.
C'est vrai.
Est-ce que c'était...
Mais j'ai dit plusieurs fois, j'ai pas pensé quand je l'ai fait, mais effectivement, ça a fait un souvenir de cette scène que j'adore en plus.
Vous avez déjà eu envie d'entendre une voix de chanteuse qui arriverait dans votre spectacle comme ça, dans un film?
Oui, j'aimerais faire un film où il y a aussi les chansons. Pour l'instant, c'est vrai qu'à chaque fois, j'utilise plutôt la danse, mais j'aimerais un jour faire un vrai comédie musicale où il y a aussi les chansons.
On entend les rythmes des machines et la voix de Björk. Blancali, c'est aussi peut-être tous ces imaginaires qui ont infusé sans même qu'on s'en rende compte, hein, la vision de ce film. Vous dites que vous l'aimez?
Bien sûr, je pense que tout ce qu'on aime reste dans notre mémoire et que c'est ça qui nous fait à chacun. C'est nos choix, nos goûts, toutes les choses qui nous influencent et qui nous inspirent, qui à la fin, quand on est dans la création, vont venir t'inspirer. Donc oui, probablement plus comme j'adore Björk. Et ce moment de ces films était dans mes souvenirs.
Le choix justement de faire un film qui n'est ni une comédie musicale, ni une captation de spectacle, ni une vidéo ou un clip, c'était quoi le projet? C'était de se dire on est presque dans la performance artistique filmée, dans l'installation vidéo?
En réalité, moi je ne me pose pas cette question du tout. J'avais envie de faire ce film. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que j'écris les dialogues pour que ça soit un film et tout ça. Et à un moment donné, je me dis, pourquoi on doit toujours être obligé de faire quelque chose pour que ça ressemble à autre chose, alors qu'on a une idée qui est très forte de quelque chose qu'on a envie de faire. Donc j'ai décidé de le faire tel que je l'avais imaginé, donc un film tel que je l'ai fait, où il n'y avait pas vraiment les dialogues et tout ça, parce que je considère que ce film, il est fort comme ça. Et des fois, on se sent, justement, dans le cinéma, les différents... formes sont très définies, c'est soit une comédie, c'est un drama, c'est un policier, et c'est difficile de faire quelque chose qui n'est pas définissable, mais en même temps, je me suis dit pourquoi pas, et je l'ai fait, je me suis juste laissé emporter par mon envie de faire ces films, et je l'ai fait comme j'avais envie.
Cet espace justement du lycée, il vous permet d'être parfois dedans, parfois dehors, parfois sur une verrière. Vous aimiez aussi ces possibilités qu'offrait le lieu, le lycée. Comment est-ce qu'il a été choisi, ce lieu?
C'est le lycée Raspail, qui est à Paris. Et je trouve que l'architecture de ce lieu est très belle. Ça nous a donné énormément de possibilités pour faire les films. Mais ce que j'aimais beaucoup dans ce lycée, c'est aussi qu'il y a un lycée qui est gay, qui a une espèce de lumière. Il n'est pas sombre, il n'est pas triste. Et moi, je voulais que mon film soit un film d'énergie, un film joyeux, un film qui raconte des gens qui sont tous différents, mais qui passent leur vie ensemble et qui s'amusent. Et je voulais avoir une sensation de quelque chose de positif par rapport à l'école, pas quelque chose de dur ou de sombre. Et ce lycée est très, très beau.
Cette verrière magnifique que vous utilisez.
Oui, vraiment, l'architecture de ces lieux, oui, est très jolie. Il y a cette passerelle, tout est blanc. Et en plus, on a eu la chance qu'il a fait le soleil, ce qui est quand même pas toujours le cas à Paris. Et on a eu une semaine de soleil magnifique. Donc, quand on tournait, on a pu tourner presque tout en lumière naturelle, ce qui est génial. Et ça donne beaucoup d'énergie. Et j'ai demandé aux danseurs tous d'être habillés en couleur pour avoir justement ces sensations très colorées, très
joyeuse,
allégrée, joyeuse.
Blancali, vous avez vu naître le hip-hop et vous avez été sensible à ces musiques de la rue. La cour, elle retranscrit un peu cet univers quand même. On est dehors, on a cette danse qui a pour origine la rue, l'électro.
Oui, l'électro, c'est vraiment une danse qui vient de la rue. Et ce qui est magnifique, c'est que tous ces danseurs, et certains travaillent avec moi déjà 5 années, et beaucoup sont devenus des danseurs professionnels. Donc,
c'était pas le cas à ce moment-là?
Et quand on a tourné le film. Oui. Si, mais parce que avant le film, il y a eu une tournée avec un spectacle qu'on a fait ensemble. Donc ces danseurs, c'était le résultat, disons, des 5 ans de travail tous ensemble et d'une tournée d'un spectacle qui s'appelle Electro Kiff. Et c'était quelque chose qui a fait que quand je les ai rencontrés, ils étaient vraiment des danseurs de la rue qui faisaient leur compétition et qui s'entraînaient un peu à droite et à gauche. Ils venaient tous des groupes qui étaient différents. Et je les ai rassemblés, on a fait ces spectacles, on a tourné. Et ils sont devenus professionnels et maintenant, aujourd'hui, ils vivent de la danse. Donc, pour eux, c'est...
C'est vous qui avez été leur professeur. Le lycée, ça a été chez vous, en fait.
Voilà. Je les connais très bien et c'est pour ça que quand je fais les films, je voulais prendre leur univers, leur énergie, parce qu'ils sont drôles. C'est des personnes vraiment joyeuses, vraiment passionnées par ce qu'ils font et très, très drôles. Donc, j'ai voulu vraiment imprimer ça dans les films.
Ces groupes de garçons, ils posent aussi les questions que posent l'adolescence, la virilité, la démonstration, la performance. Et ils font ce qu'on appelle des battles. Blancali, racontez-nous ce qui se passe pendant cette scène à la fin du film. Comment ça s'organise, les battles? Il y a ce groupe de garçons réunis?
Oui, les battles, bon, c'est très bien que c'est toujours une espèce de défi à travers la danse pour montrer qu'est-ce qu'on sait faire. Et pour les danseurs, spécialement pour les danseurs de la danse urbaine, c'est quelque chose de très important parce que c'est dans les battles qu'on se mesure et c'est pour les battles qu'on travaille, qu'on se prépare et que chacun essaye dans son coin d'inventer des choses. Donc, dans cette danse concrètement, c'est très inventif, très fort parce qu'il y a ces battles où à chaque fois on arrive et on doit être plus fort que les autres. Donc, et à la fin du film, je voulais qu'il y ait ces moments où eux, ils sont comme ils sont dans la rue quand ils font leur danse. Et je voulais finir sur ces moments-là, un vrai battle. Donc je les ai dit, voilà, maintenant, on y va, c'est un battle.
C'était de l'improvisation, champ libre pour faire la battle.
La fin du film, alors que tout le reste, c'est vraiment beaucoup fait travailler, très chorégraphié, il y a un vrai travail de composition. À la fin, je voulais les voir dans leur univers, dans leur esprit, comment ils sont quand je les ai rencontrés. Et la musique de cette scène-là a été faite par un DJ mexicain qui a 18 ans, qui s'appelle Paco Disaster. Et je voulais vraiment que tout soit authentique, après avoir passé par tout un film qui est vraiment où les choses sont très placées, très chorégraphiées et un peu sorties du contexte, non?
Blancali, dans ce moment de battle, il y a à la fois une certaine, pas une agressivité, mais une manière quand même de se mesurer qui est assez forte au corps à corps, presque un peu martiale. Et en même temps, n'importe qui rentre dans le groupe a le droit de se mesurer à qui il veut. Il est intégré dans la battle.
Oui, c'est ça les battles. Hein. On peut toujours venir dans un groupe de danseurs et rentrer dans une battle. Si on sait ce qu'on fait et qu'on est au niveau, on peut le faire. Et c'est ça qui est génial. Moi, j'ai vu des battles extraordinaires. Même dans, c'est quelque chose qui vient de les hip-hop, parce que c'est dans les hip-hop qu'a commencé vraiment tout cet esprit des battles et qui maintenant est devenu quelque chose de très important, parce qu'il y a des compétitions internationales énormes où il y a beaucoup de danseurs qui participent dans le monde entier. Il y a les qualifications, c'est devenu presque un sport. Hein. Et les battles ont commencé quand même dans la rue, mais maintenant c'est devenu quelque chose de très important.
Et justement, on passe par tout ce panel d'émotions dans Electromathematrix, puisqu'il y a aussi cette séquence presque de danse classique, en tout cas de musique classique, qu'on va entendre, où là on retrouve le corps légèrement dénudé, torse nu, et où on voit ce que la danse fait au corps, et on trouve ces liens d'émotions, d'amitié.
Oui, dans les films, pour moi, c'était important qu'il y ait aussi les moments où, en dehors de jouer la comédie, de travailler sur l'énergie, j'avais envie aussi de montrer ces danseurs qui sont extraordinaires, avec qui j'ai travaillé depuis toutes ces années, et qui ont une maîtrise de leur corps. Je voulais les mettre aussi au niveau vraiment des danseurs universels. Ça veut dire que la danse est quelque chose qu'on partage tous. Et il y a ces moments de grâce, ces moments magiques où ils vont, en utilisant cette danse, qui est quand même la danse électro, aller vers un monde où ça se transforme en poésie.
Merci Blancali. Je rappelle que votre film Electromathematrix sort demain, mercredi, dans les salles. Rendez-vous demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était préparée par Thibaut Bikini, Julien Rosa, Justine Richard et Alexandra Madoyan. À la réalisation, Anna El Fakir, à la technique, Anthony Thomasson. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.